Le cinéma algérien est un cinéma qui se reconstruit doucement après la période sanglante de la guerre civile. Nous avons profité de la manifestation « Regard sur le cinéma algérien » à Montpellier pour rencontrer Djamel Bendedouche, réalisateur de « Areski l'indigène », l'histoire d'un bandit d'honneur kabyle après la révolte de 1871. Et nous avons rencontré aussi Rania Serrouti, jeune actrice algérienne qui joue dans un court-métrage dont le titre est « Ouria, liberté ». Nous avons parlé de la place du cinéma dans l'Algérie actuelle. Bonjour Rania Serrouti, bonjour Djamel Bendedouche.
Bonjour.
Alors vous, Rania Serrouti, vous êtes comédienne algérienne.
Oui, comédienne de théâtre et de cinéma. Voilà.
Et vous, Djamel, vous êtes donc réalisateur.
Je suis réalisateur et avant d'être réalisateur, j'étais aussi comédien.
Comédien, exactement.
J'étais derrière les caméras, les micros aussi.
Et donc, vous êtes ici en France, à Montpellier, pour le panorama du cinéma algérien, une manifestation qui présente bien des films venus de l'Algérie.
Voilà, tout à fait. C'est mon dernier film que je présente ce soir à 20h15. Et un film que j'ai réalisé, que j'ai tourné en Algérie. Un film sur un bandit d'honneur, sur un personnage très emblématique. En Algérie, personnage de la fin du 19e siècle en Algérie.
Voilà, donc ça se passe. On va en parler parce qu'on va partir de votre film, qui est dans un contexte historique, hein, fin 19e, les révoltes de 1871 en Kabylie.
Oui, ça vient juste après, effectivement.
Juste après. Et après, on parlera un peu de l'Algérie contemporaine,
bien sûr.
Vous connaissez forcément, et puis faire un petit regard croisé avec la France. Alors, on va quand même commencer avec vous à parler bien de ce film. Pourquoi vous avez voulu faire ce film sur Areski?
Les personnages de bandits d'honneur m'ont toujours été, j'ai toujours été très impressionné par ces personnages. L'Algérie, qui est un pays méditerranéen, il y a eu beaucoup de ces personnages autour du 19e siècle. Mais ce qui était très, très intéressant à travers le personnage d'Areski, parce qu'il il venait juste après la révolution de 1871. Donc, il faut dire que son père a été l'un des porte-drapeaux de la révolution du 1871 précisément, de la révolution d'El Mokrani. Areski a été initié aux armes par son père et il vivait dans un contexte colonial assez difficile. En tant qu'homme révolté, il était contre l'injustice, bien sûr écrasé par le poids de la répression, etc. C'est sûr que des personnages comme ça ne pouvaient que déranger le système de l'époque. Et ce qui était intéressant, c'est de faire une étude sur comment que ce personnage a évolué autour de la colonisation, dans la colonisation aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Aussi, il était important pour moi de ne pas en faire un personnage genre Zorro, je suis arrivé, etc. Non, c'était pas ça du tout, mon but.
C'était plus le côté humain.
C'était de le faire connaître. Et montrer ce qu'était la colonisation à l'époque à travers précisément un autre personnage qui est Albertine, qui est journaliste à l'époque, qui a essentiellement fait des articles à Paris sur les anarchistes, et donc très avertie sur le plan politique, bien sûr. Et cette Albertine est arrivée, elle est venue en Algérie pour se recueillir sur la tombe de son père, qui est un colonel, qui est mort en Algérie, colonel de l'armée française. Alors, vous voyez un petit peu la dualité. Et puis, quand elle se retrouve dans ce petit village en Kabylie, à travers une institutrice qui est Mademoiselle Faure, l'institutrice de l'école indigène, elle découvre Areski et là... Ensuite, on voit le travail qu'elle a fait sur le plan journalistique, parce que à partir de là, elle voulait véritablement donner la parole à Areski. Et ça a été dur d'arriver à lui donner la parole, mais c'est elle qui, au fait, nous fait connaître ce personnage.
Donc, Djamel Bendedouche, on le précise, là, vous avez voulu rendre compte, quasiment historiquement, enfin, c'est fidèle,
oui,
c'est fidèle à l'histoire. Hein,
oui, ça, j'étais...
L'histoire officielle.
Oui, non, mais j'ai... Je voulais justement, à travers cette histoire, je voulais réconcilier un travail historique rigoureux, c'est important, et puis aussi, à travers une espèce de populaire, c'est une épopée, hein, ce film, c'est une épopée très populaire au Kabylie, à travers ce personnage qui est Ariski Bachir. Mais des personnages comme ça, en Algérie, il y en a de fabuleux. Avant Ariski, il y a eu Bouziane El-Khalaei. Bouziane El-Khalaei, moi je le prononce en arabe, et en français ça donne Bouziane El-Khalaei. K-A-L-A-I, très bas. Qui tenait aussi les maquis, dans le même genre, bandit d'honneur aussi, dans la région de l'Oranie. Ariski Bachir, c'est la région de Kabylie. Et Bouziane El-Khalaei, c'est la région de l'Oranie en 1800. Il a été exécuté en 1876. C'est dire que 1871-1876, c'est à côté, quoi.
Effectivement. Alors, vous, c'est un film que... Enfin, ou plutôt un personnage que vous connaissiez ?
Oui, on entend parler beaucoup de ces personnages-là, de ces... Mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de voir le film. Mmh. En fait, je vais le voir ici en France et ça tombe bien. Ça veut dire, moi et M. Vendedouche, on s'est rencontrés déjà sur le plateau de tournage parce que j'ai joué dans un de ses films. Je vais avoir l'occasion de voir son film parce que je n'ai pas eu l'occasion de le voir en Algérie. Mmh. Et puis voilà.
Alors sinon, en Algérie, quel est l'état du cinéma par rapport au sujet que vous avez pris, notamment donc, parler de quelqu'un qui a poussé ses concitoyens à la révolte. Mmh. Est-ce qu'il y a de nombreux films comme ça, ou quelques films d'ailleurs, qui racontent l'histoire de ces grands personnages.
Au fait, il faut savoir que l'histoire de l'Algérie à travers ses révoltes populaires, à travers sa révolution, que les réalisateurs sont beaucoup inspirés de toute cette partie, cette époque. Surtout l'après-indépendance, surtout la guerre d'Algérie. C'est sûr que c'est normal, des réalisateurs qui avaient 20 ans, 25 ans à l'époque, qui sont tout neufs sur le terrain cinématographique, à l'indépendance, c'est très important pour eux d'essayer de faire un film sur l'engagement révolutionnaire de leurs parents ou de leurs proches, en tous les cas, à la guerre d'Algérie.
Alors, Rania Serouti, donc vous êtes comédienne, on va peut-être parler de votre travail. Vous-même, peut-être que vous avez joué déjà dans des films qui racontaient l'histoire politique du pays, de l'Algérie.
Oui, j'ai eu l'occasion de participer dans des films tels que Bateau Blanc. Bateau Blanc, je ne sais pas.
Je ne connais pas l'histoire, je n'ai jamais le film.
Oui, un révolutionnaire aussi, l'ardeur et tout. Je n'ai pas beaucoup participé dans ce genre de films, mais j'ai eu quand même un ou deux films, une petite participation comme ça. C'est vrai que c'est très important de tracer cette période-là, mais il serait aussi important, parce que pour notre part, la nouvelle génération, on essaye aussi de travailler et de s'inscrire justement sur une nouvelle vision des choses aussi, parce que c'est vrai que l'Algérie maintenant est passée par plusieurs épreuves dans son histoire. Il y a eu la colonisation, après il y a eu la période du terrorisme, la décennie noire, après il y a eu... Maintenant, on essaye un petit peu d'avancer, d'essayer de contribuer du peu qu'on peut pour qu'il puisse avoir une génération, une relève, parce que c'est très, très, très difficile qu'il y ait une relève, parce qu'en fait, il y a eu un creux entre l'ancienne et la nouvelle génération, du fait que, quand même, 10 ou 20 ans, c'est quand même une longue période qui a été un petit peu... Ça veut dire qu'il n'y a pas eu la génération de milieu. Il y a eu l'ancienne génération, après, il y a eu ce trou-là.
Et conflit.
Voilà. Non, pas conflit,
Les 10 années, en tous les cas, du terrorisme ont beaucoup marqué la jeunesse algérienne. Et je crois que c'est un moment très difficile pour tous les Algériens. Mais je crois que là-dessus, il faut faire du boulot. Moi, je dis qu'il faut faire des films pour dire qu'il ne faut plus jamais que ça revienne.
Que ça se reproduise, surtout.
Plus jamais ça, en tous les cas.
Mais surtout, le plus important, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu un problème de transmission. Ce trou-là a fait que la nouvelle génération, en quelque sorte, n'a pas eu vraiment de véritable repère, parce qu'il y a eu des réalisateurs qui ont travaillé quand même, tels que M. Bendedouche et d'autres aussi. Mais dans la plupart des réalisateurs ou des gens dans d'autres domaines qui sont partis ou bien qui sont morts, malheureusement, ou bien... Ça veut dire qu'il y a eu ce creux-là. J'insiste là-dessus parce que c'est très important. Ça a été très, très difficile pour nous, en tant que nouvelle génération, justement, d'essayer de transmettre des choses alors que nous-mêmes, on avait besoin d'apprendre encore. C'était très, très difficile. Et de là, ça nous a un petit peu éloignés des thèmes sur le colonialisme et tout ce qui en suit. Ça veut dire qu'on est plus préoccupés maintenant par... Bon, c'est très important, c'est vrai aussi, mais je parle de notre... vision aussi actuelle, c'est qu'on est très pris par justement les soucis de la société, les fléaux, les problèmes, comment justement redresser tout ça et essayer d'avancer en tous ensemble. Voilà.
Plutôt une génération qui part vers la critique sociale.
Je trouve ce qu'elle vient de dire, c'est effectivement très intéressant. Il y a eu des films qui ont été comme ça, qui ont été faits sur une époque 1962-1980-85.
Exactement.
Et puis ensuite, il y a eu une coupure totale. Et vous êtes arrivé là-dedans. Quel type de film faut faire par la suite, je veux dire, à partir de là
Il y a beaucoup de thèmes à aborder. Surtout, bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a la voie du court-métrage, parce que c'est un peu plus facile pour nous, vu les problèmes de financement et tout ce qui en suit. Mais beaucoup de jeunes, maintenant, essayent justement de travailler sur des courts-métrages et d'essayer d'exprimer ne serait-ce que des thèmes comme ça sur la diversité, la diversité dans le langage, dans les langues, le problème aussi de liberté, le problème enfin, il y a beaucoup de soucis, de trucs à...
Et le court-métrage dans lequel vous jouez, que vous êtes venu présenter ici à Montpellier, Horia, alors, de quoi
Horia, question ? Voilà, Horia, déjà, ça veut dire liberté, en dialectal, parce qu'en arabe, c'est autre chose. C'est une femme aussi qui représente, enfin la femme en général, ça représente aussi le pays, ça représente beaucoup de choses, et surtout pour nous les Algériens. Horia, c'est une femme qui se cherche, il lui est arrivé un drame, elle a été violée pendant la période justement des signes noirs. On ne parle pas vraiment de cette période-là, mais on le sent, on la voit là, dans les événements, dans le conflit. Et puis c'est une femme qui a été rejetée par la société, par son père, sa sœur, son fiancé, et puis elle-même, elle souffre énormément.
C'est un problème tabou, s'il ne faut pas en parler.
Oui, c'est vrai que même...
C'est-à-dire qu'elle a été violée, il ne faut pas en parler.
Il ne faut pas en parler, mais en plus, tout le monde lui reproche ça. C'est comme si elle était volontaire, elle voulait bien
que évidemment, ça se passe. Évidemment, elle est devenue de la famille.
Voilà. Il y a un moment donné du film où c'est un peu confus, parce que le réalisateur voulait que ça soit comme ça. C'est qu'on ne sait pas si ça se passe dans sa tête ou c'est réellement... La vengeance, parce qu'elle rencontre un monsieur et elle le tue. Et on sent aussi à travers le film que ça se répète à chaque fois, ça veut dire de ville en ville, elle est devenue en quelque sorte, c'est avec son paranoïa et tout, elle est devenue en quelque sorte une tueuse en série. Ce mal-là, le porte en elle, et elle se cherche à un moment donné, on ne sait pas si, après la vengeance, elle va reprendre sa vie, et en fait, elle va refaire sa vie, reprendre tout à zéro, normal, et repartir... À la fin, elle va plutôt se répéter, elle va recommencer, parce qu'à chaque fois, elle va aussi revoir ce monsieur-là.
Donc c'est un des thèmes qui, aujourd'hui, sont abordés. C'est très dramatique, la situation qu'a vécu l'Algérien ces 10 années.
Tu peux dire 20 ans, quand même.
C'est pratiquement ça, oui. Et donc, ça a été vraiment... C'est très, très grave, ce qui s'est passé. Et moi, je crois que nous, les cinéastes, les comédiens, en tous les cas, le monde de l'image et de la lecture aussi, alors, on devrait en parler beaucoup, on devrait extirper un petit peu ça de nos... Et puis pour dire à la nouvelle génération, parce qu'il y a des jeunes maintenant qui aimeraient bien... comprendre ce qui s'est passé.
Pas uniquement comprendre, mais surtout, quand ça a commencé, il y avait des bébés qui ont maintenant 15-20 ans. Donc, voilà. C'est des gens qui n'ont vécu que ça, en fait. Et après tout ça, il y a eu, en quelque sorte, comment dire,
tgréache. Oui, il faut ressortir.
Tout est ressorti, les fléaux, les problèmes, les trucs souterrains. Tout est ressorti comme ça. Et c'est difficile
pour récupérer psychiquement toute cette jeunesse.
Parce que j'ai remarqué, par exemple, en Europe ou dans les pays occidentaux, ou bien à chaque fois qu'il y a un petit problème, je suis en train de banaliser par rapport à ce qui nous est arrivé, un petit tremblement de terre, ou juste il y a des psychologues qui se ramènent, des gens qui sont pris en charge. Mais ce qui s'est passé en Algérie, c'est des gens qui n'ont vu que ça, et puis c'est très, très difficile de redresser beaucoup de problèmes psychologiques.
Ce qui est très embêtant, c'est que toutes les générations ont plus ou moins été marquées un peu par des situations aussi dramatiques. Moi, j'ai vécu la situation de la guerre d'Algérie et Ça n'a pas été commode non plus.
Mais
je veux dire que...
On ne s'est pas relevé, finalement. Il y a eu toujours un coup.
Je veux dire que c'est très embêtant. On essaie de comprendre parce qu'on fait des films. Et je crois que c'est ce qui nous aide aussi à surmonter un peu tout ça aussi.
De voir la femme, c'est qui est sur son bourricot avec son hayek,
ou des bien images, la femme, des voilà. Images d'Épinal,
voilà, oui, ou bien ça, voir la femme carrément dans ouais. Son truc là,
dans son hayek.
Ça veut dire en Algérie, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire.
Bien sûr.
On est en train d'essayer de travailler. L'Algérie a besoin de toutes ces compétences. Ces jeunes, il y a beaucoup de jeunes en Algérie qui veulent faire beaucoup de choses et il faut que ça change. Et
la nouvelle génération essaie de lutter visiblement contre les clichés, les stéréotypes que nous occidentaux, on pourrait avoir sur l'Algérie. Vous pensez que le cinéma peut vraiment libérer
en tous les cas,
un peuple ?
Le cinéma est une forme, entre autres, pour libérer toutes ces énergies.
Si on arrive juste à un degré où on se reconnaît, on s'identifie, c'est déjà pas mal.
C'est
le plus important, parce que l'Algérie a besoin de se voir, de s'identifier, c'est très important.
Oui, de comprendre ce qu'il est un petit peu dans tout ça.
Exactement.
Et c'est intéressant que des réalisateurs algériens viennent à Montpellier, par exemple, montrer leur film, un échange culturel, savoir ce que les gens de Montpellier voient ces films algériens, et ils essayent de comprendre la nature et l'explication, en tous les cas, idées du cinéma algérien. Et puis comme toi, comédienne algérienne, ici à Montpellier, moi je trouve ça superbe.
On peut le préciser aussi, parce que le cinéma algérien, même pour les Algériens, est difficilement visible. Il y a très peu de salles qu'ils projettent. L'occasion, c'est souvent des rencontres, le festival de Béjaïa.
C'est vrai.
Pour le problème de salles, vous savez, c'est tout un circuit. C'est un cercle vicieux. Ça veut dire, on se dit, par où commencer pour remettre tout à l'état où
ça a été, qu'il faut beaucoup d'argent.
Difficile.
Oui, c'est vrai.
Non, c'est pas une question d'argent, parce que l'Algérie a de l'argent. Le problème, il demeure, c'est vrai, dans la priorité. Ça veut dire, il faut commencer par la production ou bien par la distribution, et tout est lié. En fait, c'est pour cela qu'il y a tout un programme qui a été fait par le ministère de la Culture qui consiste à, justement, lancer la production, même si c'est à travers des événements comme Alger, capitale de la culture arabe 2007, maintenant c'est Panafricain 2009, ça fait rien, même si c'est à travers des événements, parce qu'on n'a pas ce budget constant annuel comme la France. On a un fonds d'aide, mais bon, c'est minime par rapport à la France, parce que, tout simplement, il n'y a pas de retour par rapport à la billetterie et tout ce qui en suit, il n'y a pas de salle et tout. Il y avait des salles qui ont été fermées, ou bien saccagées, ou bien c'est des salles qui ont fait d'autres activités, ou bien... Mais deuxième action du ministère de la Culture, programmée par le ministère de la Culture, surtout, c'est de réhabiliter et reconstruire et restructurer 120 salles entre 2009 et 2011. Ça, c'est extraordinaire.
Donc,
déjà.
Ça, c'est un grand projet.
Exactement. Mais c'est réalisable. Équipement, réhabilitation, restauration, etc.
Entre 1962 et 1980, il y avait un cinéma. C'est vrai qu'il y a eu un très bon cinéma. Moi, je me souviens, le cinéma algérien était considéré. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la période 90-2000, qui était une période catastrophique, qui a complètement démoli dans ses fondements la cinématographie, comme toute la culture, tout ce qui est lié directement à la culture, le livre, la peinture, la poésie, etc. La nature a horreur du vide. Toutes les salles de cinéma, pendant toute cette époque, ont été squattées par des commerçants hideux qui ont installé des bouis-bouis pizza, machin, etc. à l'intérieur des salles de cinéma, qui ont été totalement dénaturées. Ce n'est que depuis quelques années que c'est repris en main et que toutes ces salles de cinéma ont été récupérées, parce que il fallait les récupérer. Il fallait les récupérer administrativement. Ça n'a pas été simple pour le ministère. Les salles de cinéma, ce n'est pas suffisant, parce que moi, je suis réalisateur. Et quand je fais un film, je commence à faire un casting. C'est très difficile de faire un casting. Je trouve pas les personnages, je trouve pas les écoles d'art dramatique, les écoles de cinéma, les écoles de... tout ce qui tourne, tout ce qui fait l'image, je veux dire. Et là, je crois que c'est effectivement un gros boulot.
Et donc, c'est l'espoir donc, pour les années à venir pour l'Algérie.
Il faut espérer. Hein, faut espérer.
On a tout pour réussir, normalement. Il n'y a pas de raison.
Oui. En principe, oui.
Vous le dites comme ça, d'une manière pas très convaincante, monsieur
Le
Dédouche.
Non,
c'est pas parce que je suis jeune que je le dis. Hein, je le dis parce que je le crois
moi,
vraiment.
Moi, je suis encore dans le cinéma. C'est la preuve que je suis...
Je suis collé
au cinéma. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours dans le cinéma, de toute façon.
En fait, monsieur Bendedouche a aussi lancé, un de ses projets, a lancé toute une école privée. C'était la première en son genre en Algérie, de cinéma.
Mais j'ai beaucoup de projets très ambitieux pour cette école. Enfin, on verra bien.
Inch'Allah, pourquoi pas.
C'est l'occasion de rappeler que vous êtes non seulement réalisateur, mais aussi enseignant donc en cinéma et spécialiste
du
cinéma.
Voilà.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission où on n'a pas développé tout ce dont on devait parler, mais
non,
l'essentiel,
bien sûr,
c'est
bien
que
sûr.
Vous parliez
bien
entre vous, et c'est ce que vous avez fait. Merci Rania Serruti,
merci
et bon retour donc en Algérie.